Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran. Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour méditer ensemble sur les versets 1 à 11 de la sainte sourate Qari'a. Nous vous en présenterons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
A'oudhou billahi minash shaitanir rajim.
بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية
وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية صدق الله العلي العظيم.
Le coup. Qu'est-ce que le coup? Et qui te dira de ce qu'est le coup? Le jour où les gens seront comme papillons éparpillés et les montagnes comme laine cardée, alors, quant à celui dont les balances seront lourdes, alors il sera dans une vie agréable. Et quant à celui dont les balances seront légères, alors sa destination est une fosse. Et que sais-tu de ce qu'elle est? Un feu ardent.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3. بسم الله الرحمن الرحیم. Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, bonjour et bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Nous sommes le jeudi 16 Tir, 1401 du calendrier iranien, 7 juillet 2022. Aujourd'hui, nous allons vous présenter notre bulletin d'information qui sera suivi par un commentaire politique. Toute alliance avec Israël menace la stabilité et la sécurité régionale, a déclaré l'amiral Ali Shamkhani. L'Iran avertit contre toute alliance avec le régime sioniste dans la région. L'ambassadeur adjoint britannique à Téhéran, identifié en plein espionnage. Et Boris Johnson va démissionner ce jeudi, selon les médias britanniques. C'étaient les principaux titres de l'actualité. Voici le journal. Le secrétaire du Conseil suprême de la sécurité nationale iranienne a tiré la sonnette d'alarme sur les conséquences de la formation d'une coalition avec le régime israélien. Ali Shamkhani, qui s'exprimait lors d'une réunion avec le ministre qatari des Affaires étrangères à Téhéran, a déclaré que toute coalition avec Tel Aviv mettrait en péril la sécurité et la stabilité de l'Asie occidentale. Le haut responsable iranien de la sécurité a qualifié le terrorisme et le sionisme de principales composantes de l'insécurité dans la région. Il a mentionné le terrorisme et le sionisme comme les deux principales sources, à ses yeux, de l'insécurité dans la région et a prévenu que toute alliance avec le régime sioniste, même non sécuritaire et civile, menacerait la stabilité et la sécurité de la région. Le commentaire politique d'aujourd'hui a été consacré à ce sujet. Le corps des gardiens de la révolution islamique a déclaré avoir identifié des diplomates et des ressortissants étrangers commettant des actes d'espionnage en Iran. Parmi eux figurent deux diplomates britanniques et autrichiens ainsi qu'un ressortissant polonais. Des images diffusées par le corps des gardiens de la révolution islamique montrent qu'ils ont été localisés et identifiés en train de prélever des échantillons de sol dans les zones interdites. L'un d'eux est Gilles Whittaker, l'ambassadeur adjoint du Royaume-Uni à Téhéran. Whittaker et sa famille s'étaient rendus dans le désert central de Shahdad en tant que touristes, au cours desquels on l'a découvert en train de collecter des échantillons de sol. Whittaker avait également procédé à la prise de photos dans une zone interdite. Les actes illégaux se sont produits juste au moment où les forces aérospatiales du corps des gardiens de la révolution islamique menaient des exercices de missiles dans les environs. Whitaker a été invité à quitter la zone après s'être excusé pour sa conduite. Parmi les personnes identifiées figure également le mari de l'attaché culturel autrichien et un professeur d'université polonais. Ils ont tous deux été filmés en train de collecter des échantillons. Boris Johnson va démissionner ce jeudi selon les médias britanniques. Face à une crise politique majeure et plus d'une cinquantaine de démissions au sein de son gouvernement et des chefs du Parti conservateur, Boris Johnson, chef du gouvernement britannique, va annoncer sa démission de la tête du Parti conservateur ce jeudi, selon les médias britanniques. Tous les yeux sont tournés vers le Premier ministre Boris Johnson pour voir comment il répondra à un défi politique qui a mis en cause son leadership avec un effet de boule de neige. Selon les médias britanniques, Boris Johnson quitterait son poste dans les prochaines heures, mais qu'il continuera à exercer les fonctions de Premier ministre jusqu'à l'automne lorsque son successeur pourra prendre sa place. Le haut responsable du Hamas, Ismaïl Haniyeh, a déclaré que sa rencontre avec le président palestinien, Mahmoud Abbas, avait ouvert un nouveau chapitre dans la lutte palestinienne contre le régime israélien. Le chef du bureau politique du Hamas a indiqué qu'il n'avait pas hésité à répondre positivement au geste de médiation de l'Algérie, qu'il a invité à s'asseoir à la table du dialogue avec le président palestinien. Il a déclaré au président de l'Assemblée nationale algérienne que les Palestiniens étaient très favorables à sa rencontre avec Mahmoud Abbas, espérant que cela renforcerait l'unité interpalestinienne en faveur de leur cause. Haniyeh a insisté sur le fait que la libération de la Palestine ne serait concrétisée que par la résistance et l'unité. Le président du Parlement algérien a pour sa part noté que la question de la Palestine est essentielle pour l'Algérie et qu'Alger soutient le droit du peuple palestinien à établir un État indépendant qui aura Quds comme capitale. La Russie affirme que ses troupes ont détruit deux systèmes de défense aérienne américaine, HIMARS, et les dépôts de munitions dans l'est de l'Ukraine. Le ministère russe de la Défense a déclaré que l'opération avait détruit deux lanceurs de roquettes HIMARS que les États-Unis et leurs alliés avaient fournis à Kiev. L'état-major ukrainien a rejeté les allégations depuis Moscou, les qualifiant de fausses, affirmant qu'il utilisait le système de roquettes pour frapper les positions des forces russes. Les États-Unis ont jusqu'à présent livré 4 unités de système de roquettes à l'Ukraine. Washington s'est engagé à livrer un total de 8 systèmes de missiles à Kiev d'ici milieu de ce mois. 2 batteries de systèmes de défense aérienne américains ont été chargés sur les navires de guerre des États-Unis et arriveront en Ukraine d'ici 2 semaines. Et ce, malgré les avertissements de la Russie, selon lesquels la fourniture d'armes occidentales à l'Ukraine ne fera qu'attiser les flammes de la guerre. Le président ouzbek a accusé les forces étrangères d'avoir incité aux troubles dans la République autonome de Karakalpakstan. Le président Shavkat Mirziyoyev a déclaré que l'objectif principal des troubles était d'attaquer l'intégrité territoriale de l'Ouzbékistan et de créer un conflit interethnique. Il a déclaré que les nouveaux développements dans son pays étaient planifiés depuis des années par des éléments malveillants étrangers. Le président Mirziyoyev, cependant, n'a fourni aucune preuve d'implication étrangère et n'a nommé aucun pays en particulier. Les manifestations ont éclaté la semaine dernière en réponse au plan du gouvernement visant à révoquer le statut autonome du Karakalpakstan. Mirziyoyev a rapidement abandonné la proposition lorsque les manifestations ont éclaté. Les autorités affirment que 14 civils et 4 agents des forces de l'ordre sont morts au cours des derniers jours, émaillés de troubles. Selon le ministère ouzbek des Affaires étrangères, 107 agents des forces de l'ordre ont été grièvement blessés au cours des troubles, dont 23 sont dans un état critique. Et enfin, l'Allemagne a du mal à faire face à une crise énergétique croissante, les habitants de Hambourg signalant des coupures dans leurs approvisionnements en eau chaude. Le gouvernement allemand a déclaré qu'il pourrait devoir rationner l'eau chaude dans certaines villes en raison de pénuries de gaz naturel. Les responsables ont déclaré que l'eau chaude ne pouvait être mise à la disposition qu'à certains moments de la journée. Selon le plan d'urgence fédéral à Hambourg, les maisons et les institutions sensibles, comme les hôpitaux, seront prioritaires par rapport aux industries. En juin, l'Allemagne est passée à la deuxième étape de son plan de gaz d'urgence à 3 niveaux après que la Russie a réduit ses livraisons vers le pays via le gazoduc Nord Stream 1. Le gouvernement allemand a demandé aux citoyens et aux entreprises de réduire leur consommation d'énergie. Le secrétaire du Conseil suprême de la sécurité nationale de la République islamique d'Iran, l'amiral Ali Shamrani, a déclaré que toute alliance avec le régime israélien, même de nature non sécuritaire et non militaire, constituerait une menace sérieuse pour la stabilité et la sécurité de la région du Moyen-Orient. L'amiral Ali Shamrani a fait ses remarques lors d'une réunion avec le vice-premier ministre qatari et ministre des Affaires étrangères, le cheikh Mohammed Ben Abdelrahman Al-Sani, en visite mercredi à Téhéran, capitale de la République islamique d'Iran. L'amiral Shamrani a souligné l'importance accordée aux pays voisins dans la diplomatie de la République islamique d'Iran, affirmant que la politique cohérente de Téhéran envers ses voisins consiste à étendre les relations élargies et stratégiques sur la base du principe de bon voisinage. L'amiral Ali Shamrani a décrit le terrorisme et le sionisme comme les deux principales sources d'insécurité dans la région du Moyen-Orient, affirmant que toute alliance avec le régime sioniste, même de nature non sécuritaire et non militaire, menacerait la stabilité et la sécurité du Moyen-Orient. Ailleurs, dans ses remarques, le secrétaire du Conseil suprême de la sécurité nationale de la République islamique d'Iran a évoqué les négociations sur la relance de l'accord nucléaire de 2015, soulignant que l'approche de la République islamique d'Iran consistait à parvenir à un accord solide, durable et fiable dans les pourparlers. Les sanctions injustes imposées à la République islamique d'Iran devraient être levées de manière à ce que tous les pays puissent facilement investir en Iran tout en préservant leurs intérêts à long terme, a déclaré le haut responsable de la sécurité nationale de la République islamique d'Iran. L'amiral Ali Shamrani a noté que l'Iran est entré dans le nouveau cycle de négociations à Doha dans le but de parvenir à un accord et qu'il adhérera à la diplomatie comme il l'a fait dans le passé, afin de restaurer pleinement ses droits légaux. Le secrétaire du Conseil suprême de la sécurité nationale de la République islamique d'Iran a souhaité au Qatar le succès dans l'organisation de la Coupe du monde de la FIFA 2022 et une fois de plus a exprimé la volonté de la République islamique d'Iran d'offrir sa coopération au Qatar dans ce domaine. Le ministre qatari des Affaires étrangères a pour sa part souligné la nécessité d'un dialogue et de négociations régionales pour surmonter les obstacles et faire progresser les relations bilatérales et multilatérales au Moyen-Orient. Il a souligné le ferme soutien du Qatar au pourparlers sur la levée des sanctions anti-iraniennes, affirmant que toutes les parties devraient honorer leurs engagements inscrits dans l'accord nucléaire de 2015 et revenir à l'accord dès que possible. L'Union européenne a été chargée de coordonner les négociations indirectes entre la République islamique d'Iran et les États-Unis lors du nouveau cycle de négociations au Qatar la semaine dernière. Les pourparlers ont eu lieu quelques jours seulement après que le chef de la diplomatie étrangère de l'Union européenne, Joseph Borrell, s'est rendu à Téhéran pour tenter de sortir les négociations de l'impasse.
Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue dans une nouvelle édition du débat en ce mercredi 6 juillet 2022. Le mouvement de la résistance islamique du Liban, le Hezbollah, a affirmé que son message avait été délivré à Israël après avoir lancé 3 drones sur un champ de gaz naturel en Méditerranée au cœur d'un litige avec le régime d'occupation israélien. Le Hezbollah a précisé que les drones envoyés sur le champ gazier de Karish avaient accompli leur mission de reconnaissance. Le régime de Tel Aviv avait déclaré qu'il prévoyait de lancer en effet des opérations d'extraction dans la région, et ceci malgré les avertissements du Hezbollah et des hauts responsables libanais qui ne resteront pas les bras croisés face à cette démarche israélienne. En effet, pour le Hezbollah, ce projet israélien s'inscrit dans le cadre de cette tentative de piller les ressources maritimes et les richesses naturelles et nationales du Liban. Le Hezbollah a affirmé qu'il était prêt en effet à prendre des mesures, y compris militaires, contre les opérations israéliennes de forage de gaz sur le champ de Karish. Aujourd'hui, dans le cadre de cette édition du débat, nous allons revenir sur les tout derniers développements, notamment alors cette mission de reconnaissance accomplie par les drones du Hezbollah et bien entendu son impact sur les négociations pour la délimitation des frontières maritimes. Veuillez rester avec nous jusqu'à la fin de cette émission.
À Tel Aviv, c'est l'horreur mêlée à la cacophonie. 48 heures après que le premier SM de 3 drones Mersa du Hezbollah a fait une descente en plein bouclier aéronaval Israël-US-OTAN autour de Karish, ce, au risque de réduire en miettes des milliards de dollars que de contrats que les sionistes comptent faire signer aux Golfiens, à l'effet de leur dresser une vraie fosse DCA intégrée à l'image de ces centaines de patriotes d'OTAD et de dômes de fer interconnectés aux 4 coins du Moyen-Orient qui font tout sauf la tâche d'interception et d'abattage de missiles et de drones pour laquelle ils ont été conçus. L'impressionniste jette le pavé dans la mare en confirmant le second échec en date de la lotte de combat d'Israël face aux drones du Hezbollah. Les F-16 israéliens se sont montrés incapables ce 2 juillet d'abattre les trois drones Hezbollah à Karech, bien que l'unité de surveillance de l'armée de l'air ait réussi à en intercepter l'apparition et à émettre l'ordre de destruction à deux chasseurs du 109e escadron qui partit de la base aérienne de Ramat David, n'ont réussi à battre que l'un des trois UAV sans pouvoir en faire autant pour les deux restants ayant du mal à poursuivre le deuxième drone et le missile l'a raté. Le troisième drone volait à basse altitude, ce qui rendait difficile son interception. Voici arrivé à leur apogée. Les capacités dissuasives du Hezbollah qui amorçaient en 2000 ont entraîné la débandade des militaires israéliens dans le sud du Liban puis mis fin à la guerre de 33 jours en 2006 sur fond de l'effondrement de l'armée de terre israélienne mais aussi sa marine avec un SAR 6 pulvérisé par un missile de croisière Nour et qui vient de remporter la bataille du ciel. Car ce qui préoccupe le régime sioniste n'est pas tant l'infiltration des drones du Hezbollah et leur survol du champ gazier de Karech que leur succès a mené à terme leur opération de reconnaissance sous les yeux aveuglés des pilotes israéliens. À cet égard, aucun des agissements maritimes du régime sioniste dans les eaux territoriales du Liban ne resterait discret et donc sans réponse. Ou dit autrement, le Hezbollah, outre d'être une puissance balistique, est une puissance aérienne asymétrique capable de surveiller, de cibler et détruire des cibles terrestres, navales et même aériennes si on se souvient de l'hélico Atalet pulvérisé le 3 janvier. Tout cela est inclus le brave communiqué du Hezbollah émis après l'opération réussie au-dessus du champ gazier de Karech. L'opération de reconnaissance s'est achevée avec succès et le message souhaité a été transmis.
Retour au plateau de l'émission du débat. Merci de votre fidélité. Permettez-moi de vous présenter nos invités pour cette émission. Nous sommes en ligne depuis Bruxelles avec Luc Michel, géopoliticien, et depuis Damas avec Maître Arnaud Develay, juriste international et analyste politique. Maître Develay, bonjour et merci d'être en ligne avec nous.
Oui, bonjour à vous, bonjour aux téléspectateurs et bonjour à Monsieur Michel, toujours un plaisir.
Maître Develay, alors le Hezbollah a annoncé récemment dans un communiqué que la mission avait été accomplie et le message avait été délivré après avoir lancé trois drones de reconnaissance sur les zones offshore contestées en Méditerranée. Quel est le message de cette opération de reconnaissance du Hezbollah, Maître Develay?
Écoutez, le message, il est simple, c'est qu'après toutes les tentatives de négociation fondées sur des positions complètement différentes les unes des autres, et ce depuis 2007, puisque bon, rappelons pour nos auditeurs que le cœur du litige, en fait, est la démarcation maritime en termes des frontières. Cette détermination est cruciale dans le sens où elle permettrait ensuite aux uns et aux autres de procéder à l'exploitation des gisements gaziers offshore. On a en présence de deux positions, une qui la frontière maritime, et ça c'est la position israélienne, qui s'appelle la ligne 29, qui avait visiblement fait l'objet de négociations vers 2007 avec le gouvernement libanais de l'époque. Des papiers avaient été déposés à l'ONU pour entériner, si je puis dire, cet accord. Dans quelles conditions cet accord a été conclu, ça reste à déterminer. Toujours est-il que les Israéliens s'arc-boutent sur cette position. En 2011, il y a eu une modification du gouvernement libanais sur cette question avec l'introduction de la ligne off, qui était une forme de solution intermédiaire entre la ligne 29 et la ligne 23, qui est maintenant la position adoptée par le gouvernement libanais actuel depuis 2020. La ligne 29, elle, fait référence aux frontières maritimes telles qu'elles sont établies en droit coutumier, et ce qui fait que les deux parties sont en fait très, très loin les unes des autres sur cette question. Toujours est-il que la position du gouvernement libanais sur ce problème, ce dossier, laisse entendre que quelque part ne reconnaît pas l'intégrité, ou si je puis dire, les conditions, les circonstances dans lesquelles les décisions qui avaient été prises en 2007 ont eu lieu. Et par défaut, elle se répercute donc sur le droit maritime coutumier qui, normalement, laisserait entendre que la ligne serait une ligne droite qui partirait du point le plus méridional du Liban dans une ligne parfaitement perpendiculaire. C'est d'ailleurs la position qui avait été adoptée et entendue sur une question similaire entre la Syrie et le Liban, et là, il n'y a eu aucun problème. Donc, le Hezbollah, prenant compte de tous ces paramètres, s'aperçoit en plus de ça que les États-Unis ont envoyé un négociateur qui est plus en fait un espèce de vice-roi, hein, un vice-roi qui entend en fait plus ou moins épouser la position israélienne en essayant de l'agrémenter de promesses illusoires. Le Hezbollah a très bien vu à travers ce genre de manœuvre de quoi il en relevait et il a décidé de siffler la fin de la récréation lorsque les Israéliens, tels qu'on les connaît, décident unilatéralement de changer, si je puis dire, de bouger les postes, les poteaux des buts en envoyant des navires et des plateformes mobiles pour commencer en fait l'exploitation. Parce que je pense que des contrats ont été signés entre l'entité sioniste et certaines compagnies occidentales qui laissent entendre que voilà, il faut que cette situation soit réglée, sinon les contrats ne pourront pas être mis en œuvre. Donc le Hezbollah dit non, c'est pas comme ça que ça marche. En tant que garant de la souveraineté par les armes de la résistance de la souveraineté libanaise, nous tenons à vous faire comprendre que nous ne resterons pas les bras ballants pendant que vous procédez à l'exploitation du gaz qui ne vous appartient pas, tout simplement.
Merci infiniment pour ces précisions. Restez avec nous, Maître Develé. On va tout de suite rejoindre à Bruxelles Luc Michel, géopoliticien. Monsieur Michel, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Monsieur Michel, est-ce que vous nous entendez? Allô? Ah, visiblement, nous avons un souci de liaison avec M. Michel. Donc, on va continuer avec Maître Develé en attendant que notre contact soit rétabli avec M. Michel.
Je suis là, Maître.
Alors, vous nous entendez, M. Michel? Vous êtes avec nous?
Oui, je vous entends.
Très bien.
J'étais dans le vide depuis plus d'un quart d'heure.
Merci. Je vous remercie infiniment. Merci infiniment, M. Michel, d'avoir accepté notre invitation. Maître Develé, depuis Damas, il a expliqué que, alors, par le lancement des drones de reconnaissance sur le champ contesté de Karish, le Hezbollah a exposé sa capacité, en effet, de riposte, sa capacité opérationnelle. Et même, selon les médias israéliens, le Hezbollah est aujourd'hui capable de faire autrement. Est-ce que cela veut dire qu'il faudrait s'attendre à un affrontement militaire?
Avant de vous répondre, je voudrais dire un mot d'hommage pour le professeur Dortiguier qui nous a quittés il y a deux jours. C'était un grand ami de l'Iran et de la cause palestinienne et j'avais grand plaisir à débattre avec lui très souvent. Il nous a quittés, c'est une grande perte pour tout le monde. Ouais. Maintenant, en réponse à votre question, on constate aujourd'hui un effondrement de la DCA et de l'aviation israélienne. Aujourd'hui, les drones du Hezbollah bénéficient d'une supériorité technologique due à l'intelligence artificielle et à la supériorité balistique qui rivalise avec les Israéliens. Il y a maintenant une supériorité technologique. C'est une nouvelle facette de la guerre asymétrique que les gens de l'OTAN appellent la guerre hybride et qui avait été inventée par le Hezbollah au Liban en 2010. Aujourd'hui, évidemment, les technologies israéliennes, la supériorité de l'aviation, les systèmes d'antimissiles d'aube de fer, etc. Tout ce qui est vanté dans le Proche-Orient, c'est en train d'être battu en brèche par l'axe de la résistance.
Merci pour ces éclairages. Restez avec nous, s'il vous plaît, Monsieur Michel. Maître Develé, donc, aujourd'hui, par sa capacité de guerre asymétrique, hybride, comme disait Monsieur Michel, le Hezbollah est devenu une armée réelle. Alors, la question qui se pose aujourd'hui, qu'est-ce que cela va changer dans l'équation de dissuasion avec le régime israélien?
Mais écoutez, ça va en tout cas faire réfléchir les Israéliens, pour peu qu'ils aient des gens rationnels au niveau des décisions qui sont prises. De toute évidence, et on l'a vu déjà avec la résistance yéménite, cette tactique de guerre hybride, de UAV et de drones qui volent à basse altitude en essaim sont extrêmement précis, avec une marge d'erreur de peut-être 5 à 10 mètres. On a vu les résultats de cette tactique lors de l'organisation du Grand Prix de Formule 1 à Jeddah il y a quelque temps, au mois de mars dernier. Et on a vu qu'effectivement, les dégâts peuvent être absolument considérables. Donc, dans ce contexte-là, il sera aisément facile à accomplir pour le Hezbollah de réduire en cendres ses plateformes mobiles et réétablir dans ce contexte-là l'équation telle qu'elle se doit. J'ajouterais à cela que les Israéliens ont été tentés d'utiliser les F-35 Nasir ou Nadir modifiés, en tout cas, pour procéder à ces opérations de reconnaissance. Et visiblement, les F-35 ne marchent pas du tout. Ils ont été obligés de revenir au modèle F-16. Donc, ce qui laisse entendre que sur un plan technologique, effectivement, les Israéliens sont complètement dépassés. Et surtout au niveau de la tactique, de la stratégie, la guerre asymétrique telle que menée par la résistance a rééquilibré les débats. Et il faut maintenant que, si je puis dire, les négociateurs prennent en compte les intérêts, bien compris du Liban, dans cette question, parce que le Liban a besoin de pouvoir avoir accès à ses ressources, pouvoir commencer à sortir la tête de l'eau de cette situation économique qui n'est politiquement pas viable, quoi qu'on puisse en dire. Et d'ailleurs, j'ajouterais que tous les partis libanais sont unifiés sur la question des réserves gazières du Liban. Et de l'autre, les Israéliens aimeraient bien pouvoir commencer à exploiter au large des côtes, pour la simple et bonne raison qu'ils ont eux-mêmes des engagements visiblement avec d'autres pays du Golfe en vue de servir de substitut pour la part de marché qui s'est libérée suite à l'imposition des sanctions sur l'économie, enfin, sur le pétrole et le gaz russe. Donc il y a visiblement une attente et tout est connecté dans ce contexte-là. Le Hezbollah a toutes les cartes en jeu quelque part, puisque rien ne se fera sans que, encore une fois, les droits souverains, l'exploitation gazière de la République du Liban soient respectés.
Merci encore, Maître De Velay. Monsieur Michel, aujourd'hui, vous avez rappelé tout à l'heure, on assiste à un effondrement de la DC intégrée, que les États-Unis, le régime sioniste et certains pays de la région, en effet, tente de mettre en place à une perte de suprématie aérienne de l'entité israélienne. Est-ce qu'aujourd'hui, l'équation de dissuasion ou cet équilibre de la terreur est entré, vous semble-t-il, dans une nouvelle phase?
Écoutez, c'est une révolution stratégique. Le temps des raids militaires et aériens contre le Liban et des raids aériens contre la Syrie est terminé visiblement. D'autant plus que les Russes, maintenant, n'ont plus aucune indulgence pour les provocations israéliennes. Mais il y a surtout des conséquences économiques. Le pillage des ressources gazières du Liban par les Israéliens, c'est terminé. Et les projets de suppléer le gaz russe par du gaz volé au Liban et fourni par Israël est en train de se terminer aussi. C'est un double échec, à la fois pour la stratégie israélienne, mais aussi pour la stratégie anti-russe des pays occidentaux. Voilà ce qu'il faut retenir dans l'affaire, évidemment. On est un peu revenu à la période de la dernière décennie de la guerre froide, où les Russes, les Soviétiques à l'époque, avaient établi la parité stratégique entre les Israéliens et la Syrie d'Hafez el-Assad, le père de Bachar el-Assad. Aujourd'hui, on est revenu à la même situation. Le Hezbollah, évidemment, mais également l'Iran avec son secteur balistique, a rétabli la parité stratégique au profit de l'axe de la résistance.
Merci encore, Monsieur Michel. Maître De Velay, donc aujourd'hui, il y a d'une part, bien entendu, comme disait Monsieur Michel, cette parité stratégique. Il y a cet aspect militaire, sécuritaire, mais il y a aussi cet aspect économique, d'autant plus que le Liban, comme vous le savez, se trouve alors dans une situation économique difficile. Donc l'exploitation des richesses naturelles du Liban était essentielle pour l'économie, pour en effet le redressement économique de ce pays. La question qui se pose, quelles seront les répercussions justement alors de l'opération du Hezbollah, de sa démonstration de force, de cette capacité opérationnelle sur les négociations qui se déroulent pour la délimitation des frontières maritimes du Liban et bien entendu qui permettront au Liban d'exploiter en effet ses richesses nationales.
Mais écoutez, de deux choses l'une, je pense que la comparaison faite par Luc Michel concernant la dernière décennie de la guerre froide et la parité stratégique entre les deux blocs avait mené à l'époque les responsables à s'asseoir autour d'une table et commencer à sérieusement discuter sur l'impasse dans laquelle ils se trouvaient et en quoi la sécurité internationale pouvait s'en trouver affectée. On peut penser que dans cette configuration actuelle, avec la dispute au Liban, dans les eaux maritimes du Liban, et la parité stratégique établie par la résistance libanaise dans ce dossier, va pousser, pour peu qu'on ait affaire à des gens rationnels, les parties en présence à s'entendre sur un délimiter des frontières maritimes qui soient satisfaisants politiquement et pour les uns et pour les autres. Mais il n'y a jamais aucune garantie. On peut aussi penser que les Israéliens, et on l'a vu quelque part avec la visite de Lapid à Paris, va essayer de forcer, si je puis dire, les choses et peut-être convaincre certains partenaires occidentaux, certainement aussi les Américains, puisque les Américains ont des intérêts dans l'exploitation de ce gaz au travers de leur société énergétique. Donc on peut penser que l'outil militaire va être opéré et tout dépend dans ce sens-là des capacités qu'a eu la résistance libanaise à garder secret c'est les modes de livraison de son arsenal balistique, puisque l'on sait que depuis au moins 2 ans, si ce n'est plus, à la faveur du chaos économique engendré par l'effondrement de la Banque centrale libanaise, l'OTAN s'est investi énormément au Liban. Beaucoup d'instruments, de systèmes de surveillance électronique ont été mis en place. Et c'est un peu une course contre la montre qui a à voir avec l'objectif d'identifier où se trouvent, si je puis dire, les missiles du Hezbollah. Donc, c'est ça derrière, en fait, je pense aussi l'élément qu'il faut garder à l'esprit.
Merci encore. Une toute dernière question à M. Michel. M. Michel, qu'est-ce qui va sortir des prochaines négociations entre le Liban et le régime d'occupation sous l'égide, bien entendu, des États-Unis concernant la délimitation des frontières maritimes? Est-ce qu'on pourrait s'attendre à ce que, justement, ces négociations, alors, puissent, d'une manière ou d'une autre, alors aboutir à un résultat dans l'intérêt du peuple libanais?
Écoutez, on va ramener les Israéliens à la raison. Le temps de l'arrogance et de la supériorité militaire n'existe plus, d'autant plus que le rallié de l'OTAN est également dans une mauvaise situation. Le Hezbollah a démontré que cette guerre si hybride qui avait été lancée au Liban en 2010, c'était la réponse parfaite aux armées occidentales. Et il y a la même caractéristique en Afrique où la Russie va d'une guerre hybride et où elle démontre que les acteurs non étatiques là-bas, ce sont les paramilitaires. Mais au Proche-Orient, ce sont les mouvements comme Ansarallah, le Hezbollah, etc. Ils montrent que les acteurs non étatiques, comme on les appelle, qui sont la caractéristique de la géopolitique du XXIe siècle, sont capables de rivaliser avec les armées nationales. Ça va ramener à la modestie, évidemment, les armées occidentales.
Merci infiniment, M. Michel, Luc Michel, géopoliticien depuis Bruxelles. Je remercie également Maître Arnaud Develay, juriste international et analyste politique, d'avoir bien voulu participer à cette édition du débat. Merci beaucoup. Voilà, c'est la fin de cette émission. Avant de conclure cette émission, nos pensées profondes encore à la mémoire du défunt professeur d'Ortiguier, le grand ami de la révolution islamique et de la cause palestinienne. Merci à vous tous de nous avoir suivis jusqu'à la fin de cette émission. Excellente journée à toutes et à tous. Au revoir et à très bientôt.
Ballara, Voix de l'éloquence, est le plus célèbre recueil de sermons, lettres, exégèses et récits attribués à l'imam Ali, béni soit-il. Il a été recueilli par Sharif Razi au Xe siècle. Connu pour son contenu éloquent, il est considéré comme un chef-d'œuvre de la littérature dans l'islam chiite, après le Coran et les hadiths prophétiques. Dans cette 9e édition dédiée à la voix de l'éloquence, nous vous présentons une maxime du successeur du prophète, premier imam des musulmans, l'imam Ali, béni soit-il. Dans ta vie auprès des gens, comporte-toi de la sorte que si tu meurs un jour, les gens pleurent ta disparition, et que si tu vis, ils aiment du fond du cœur te fréquenter. Dans cette maxime de la voix de l'éloquence, le vénéré imam Ali, béni soit-il, premier imam des chiites, fait implicitement allusion à un trait de caractère inné de l'être humain, c'est-à-dire l'estime de soi. Il va sans dire qu'il ne faut pas confondre l'estime de soi avec l'amour propre ou l'amour de soi, qui sont en réalité un amour immodéré pour soi-même, proche du narcissisme. L'estime de soi est un terme désignant le jugement ou l'évaluation qu'une personne a de sa propre valeur. Lorsqu'un individu accomplit un acte qu'il pense valable, il ressent une valorisation. Lorsqu'il évalue ses actions comme étant en opposition à ses valeurs, il réagit en baissant dans son estime. Cette notion est à distinguer de la confiance en soi, qui, bien que liée, est en rapport avec des capacités plus qu'avec les valeurs. L'estime de soi est le moteur principal de beaucoup d'activités individuelles et sociales de l'être humain. Certains théologiens soulignent que même l'amour de la créature pour son créateur est une expression, en quelque sorte, de l'estime de soi. En réalité, il est naturel que l'être humain tende à la perfection et à l'élévation auprès du Seigneur, car il a au fond une grande estime pour lui-même. Dans cette maxime de la voix de l'éloquence, le vénéré imam Ali, béni soit-il, évoque aussi un autre aspect de ce sentiment d'estime de soi, c'est-à-dire son aspect social. Celui qui a de l'estime pour lui-même donne aussi de l'importance à ce que les autres peuvent penser de lui et à leur jugement. D'ailleurs, la religion musulmane accorde aussi une grande importance à ce jugement, notamment de la part de bons musulmans pratiquants et pieux. Dans un hadith, il est dit qu'après la mort d'un individu, si 40 croyants pratiquants se présente devant sa dépouille pour témoigner auprès du Seigneur qu'il n'avait connu que de la bonté de la part du défunt, Dieu le Très-Haut lui accordera sa grâce et pardonnera ses péchés que ses témoins ont ignorés, et dira qu'il acceptera leur témoignage. Dans un autre hadith du noble prophète de l'islam, le vénéré Mohammed, que le salut de Dieu soit sur lui et sur ses descendants, il est dit que la première chose qui sera entendue par les anges c'est les paroles des gens à propos du défunt. S'ils entendent du mal, ils l'écriront dans le registre. Et s'ils entendent du bien, ils l'écriront également dans leur registre. Dans cette maxime de la voix de l'éloquence, le vénéré Imam Ali, béni soit-il, a dit « Dans ta vie auprès des gens, comporte-toi de la sorte que si tu meurs un jour, les gens pleurent ta disparition, et que si tu vis, ils aiment du fond du cœur te fréquenter. » Le meilleur exemple d'un tel individu et d'une telle vertu morale est le noble prophète de l'Islam, le vénéré Muhammad, que le salut de Dieu soit sur lui et sur ses descendants. Il était connu au sein de son peuple pour son honnêteté, sa loyauté, sa vertu, son esprit équilibré et sa participation dans les affaires sociales. Le noble Coran dit que même les mécréants reconnaissaient son honnêteté, mais il traitait son message de mensonge par pur orgueil et par arrogance. Même avant son avènement à la prophétie, les Arabes connaissaient le noble prophète de l'Islam, le vénéré Mohammed, que le salut de Dieu soit sur lui et sur ses descendants, pour sa loyauté, jusqu'à l'avoir surnommé Amin, le loyal. Le prophète n'avait pas un esprit solitaire et participait aux affaires de son peuple en trouvant des solutions à ses problèmes et en s'informant de ses préoccupations. Pour lui, ce qui importait dans la vie sociale était de soutenir l'opprimé et demander des comptes à l'oppresseur. Le vénéré messager de Dieu était également connu pour sa modération et son juste milieu, et il savait concilier les aspirations spirituelles et matérielles de l'homme. Le noble prophète de l'Islam, le vénéré Muhammad, que le salut de Dieu soit sur lui et sur ses descendants, était très digne et gracieux avec les gens, qu'ils soient musulmans ou non musulmans. Et les musulmans avaient des affections très profondes pour lui et prenaient le prophète comme modèle. Le vénéré Imam Ali, béni soit-il, dit « Qui le voyait sans le connaître, son allure le prenait. Qui le rencontrait et le fréquentait, commençait à l'aimer. Il partageait son regard parmi ses compagnons de manière égale. Quand il serrait la main des gens, il ne se précipitait pas de retirer sa main. Il laissait toujours l'autre de retirer sa main. » Chers auditeurs, vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur onde courte, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 1,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.